Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h45. Bonjour François Bayrou.
Bonjour.
Vous êtes président du Modem et maire de Pau, rappelons-le. Merci d'être avec nous ce matin pour commenter l'actualité politique sur RTL. François Hollande publie donc aujourd'hui ses leçons du pouvoir, 407 pages, pour défendre son bilan, ses chez stock. Et en partie égratigné Emmanuel Macron. Vous allez lire ce livre, François Bayrou.
Oui, mais comme je lis les livres politiques en général, vous voyez bien, il y a quelque chose dans l'exercice qui n'est pas facile, qui est une auto-défense ou une auto-promotion, et c'est jamais l'exercice le plus facile qu'on puisse faire en politique.
Ça n'a pas l'air spontanément de vous passionner, je ressens le premier ton de votre réponse, si
non,
je puis
le,
dire.
Le... Donner des leçons... si près de la sortie du pouvoir alors qu'on a rencontré des difficultés, de l'incompréhension et que peut-être on n'a pas su accomplir les promesses qu'on avait faites ou présentées aux Français, c'est pas un exercice facile.
Mais vous pensez quoi?
Mais j'ai aucune
l'ancien
envie
président
de
la République aurait mieux fait de se taire.
J'ai aucune envie de polémiquer avec François Hollande. C'est... Tout ceci appartient à notre histoire récente et il faut y réfléchir.
C'est pas de la polémique, c'est savoir pourquoi il prend la parole, pourquoi il ressent le besoin de nous transmettre ce qu'il appelle, lui, ses leçons du pouvoir, et comment vous réagissez en tant que responsable politique français.
Eh bien, je lirai le livre et je vous le dirai après.
Je vais très rapidement, mais enfin, du président de la République, et là aussi je vais vite, il fait un portrait porté à l'autoritarisme, une certaine arrogance et à la séduction. Est-ce que c'est le portrait de l'homme avec qui vous avez noué une alliance à l'élection présidentielle et dont vous avez été le ministre et le garde des Sceaux?
Non, c'est pas ce que je ressens. Mais chacun a son approche. Ce que je ressens, moi, quand je vois Emmanuel Macron, c'est d'abord un homme qui est à la hauteur de la fonction. C'est quelqu'un qui exprime, ou qui sait exprimer, des attentes profondes, parfois même inconscientes de la société française, qui le fait avec un style qui est original et fort. En tout cas, c'est ce que je ressens tous les jours. Et à le voir vivre, et à le voir réfléchir, essayer de se forger une conviction, choisir ses axes, je vois quelqu'un qui n'est prisonnier d'aucun moule, qui n'est prisonnier d'aucune influence.
C'est intéressant parce
que... Donc c'est un homme profondément libre, et on avait besoin d'un homme profondément libre, qui n'hésite pas à changer les choses et à poser les problèmes les plus brûlants de la société française sans les éviter et sans les éluder. Et de ce point de vue-là, il y a une différence, en effet.
Donc je cite à nouveau François Hollande dans son livre. À la lumière de votre réponse, je comprends que l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, n'est pas arrivé au pouvoir par effraction. Vous nous dites au contraire qu'il sent plutôt les convulsions et les besoins de changement de la société française.
Je pense qu'il est arrivé au pouvoir parce qu'il a répondu à une attente profonde de la société française, qui était une attente, il est vrai, de changement, mais qui était une attente de changement qui ait du sens, de changement qui réponde à des aspirations profondes, à des valeurs profondes de la société française.
Puisque nous sommes dans les valeurs, je rappelle que vous êtes un catholique assumé, mais que vous avez toujours été aussi un grand défenseur de la laïcité dans notre pays. Pensez-vous que le président de la République, dans son adresse finalement aux évêques de France et aux catholiques de France, parce que c'était son propos, est allé trop loin ?
Non, je pense qu'il a été profondément juste. Il y a un mot qui est ambigu, qui est le mot lien. Le lien abîmé entre l'État et l'Église.
C'est faux.
Parce que le lien, ça voudrait dire que l'un est lié à l'autre. Or, ça n'est pas le cas. L'un n'est pas lié à l'autre. Je pense que ce qu'il a voulu dire...
C'est un terme affectif.
Oui, ce qu'il a voulu dire, c'est relation et dialogue. Et ça, c'est vrai que la relation et le dialogue, ces dernières années, et puis peut-être par une évolution profonde de la société, a été un peu blessé des deux côtés. Parce que, au fond, les chrétiens ont cru que la société actuelle était contre eux, contre ce qu'ils croyaient, contre leurs valeurs. Et c'est très difficile, en effet, de réparer avec des mots justes cette blessure-là. Et deuxièmement, c'est vrai aussi que l'État a pu croire... Laissez-moi finir la phrase. C'est vrai aussi que l'État a pu croire que l'Église, à certains moments, devenait un parti politique comme les autres, ou avait des messages politiques comme les autres. Or, la laïcité, ce n'est pas ça. La laïcité, qui est la chose la plus profonde que nous ayons à défendre et à porter, c'est deux choses. C'est la loi protège la foi et l'absence de foi. Croire ou ne pas croire.
Merci de le préciser.
La loi protège ses attitudes philosophiques ou spirituelles. Et deuxièmement, la foi ne fait pas la loi. Nous sommes un pays dans lequel ça n'est pas parce que un groupe de femmes et d'hommes croyants partage une conviction que pour autant il doit l'imposer aux autres. Et la laïcité, c'est exactement ça. C'est ce point de rencontre-là entre la loi qui protège la foi ou l'absence de foi et la foi qui protège et la foi qui ne fait pas la loi.
Et donc, c'est ma dernière question sur ce dossier. Vous comprenez et vous soutenez son invite aux catholiques français quand il leur dit notamment « Engagez-vous et engagez-vous pour la politique en France et en Europe. »
Je vais vous dire, j'ai entendu cette réflexion exactement en écho au discours admirable que, admirable à mes yeux, que le président de la République a fait pour la cérémonie pour le colonel Beltrame. C'était les deux échos de la même conviction, c'est que la société, un pays, une nation, la France, l'Europe, ne se limite pas à des enjeux matérialistes. Ça compte les enjeux matérialistes, matériels, l'économie, ça compte. Mais ça ne se limite pas à ça. Il y a quelque chose qui va au-delà et qui est un horizon. Alors chacun définit l'horizon comme il peut, et j'ai trouvé très bien que le président de la République dise, en s'adressant à l'Église, ben on va cheminer ensemble. On n'aura pas toujours les mêmes options, on n'aura pas toujours les mêmes choix, mais au fond, c'est de ce dialogue-là que naîtra un pays plus rassemblé. Et je n'oublie pas qu'en parlant catholique, il parlait aussi naturellement à d'autres convictions religieuses. Et l'inquiétude religieuse dans la société où nous sommes, ça compte beaucoup.
En l'occurrence, il l'a dit aux catholiques. Mais on va tourner une page, si vous le voulez bien. Nos universités, certaines d'entre elles sont bloquées. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale, même si je pense que l'enseignement supérieur devait échapper à l'époque.
Non, pas du tout.
Elles étaient dans vos compétences
bien.
Très bien, alors raison de plus pour vous poser cette question.
Et la formation professionnelle aussi.
Est-ce qu'il faut... Bien, vous avez une bonne mémoire. Est-ce qu'il faut les libérer, les débloquer, ces facultés? Et est-ce que le mécontentement que vous voyez poindre chez nos étudiants, en tout cas chez certains de nos étudiants, peut vous inquiéter?
Non. J'ai vu les déclarations, j'ai vu les prises de position. Honnêtement, qui peut défendre le tirage au sort pour entrer dans une université? Qui peut, qui est adulte, qui aime l'éducation, qui aime l'équité, qui aime la justice, qui peut dire c'est plus juste le tirage au sort que la vérification des acquis Comment on peut,
les militants qui protestent disent on ne veut pas de sélection sous aucune forme.
Voilà,
c'est le même terme depuis 30 ans à chaque réforme en France.
Oh, c'est le même terme depuis plus de 50 ans. si vous remontez 50 ans en arrière. Je prends un exemple simple. À l'université de Pau, il y a 1000 candidatures pour 60 places en STAPS, en sport. Comment fait-on? On tire au sort? Et quelqu'un va dire, bien, mesdames et messieurs, le progrès, c'est le tirage au sort. Eh bien, moi, je ne peux pas participer à ça. Il faut essayer, quand vous êtes devant une pile de dossiers comme ça, au fond, de donner sa chance à chacun, et qu'en même temps, on respecte une certaine justice. Et donc, je ne sens pas de la justesse dans la défense du tirage au sort.
Emmanuel Macron a-t-il trahi sa promesse de campagne sur la réforme des institutions, notamment avec la dose de proportionnelle qu'il nous propose actuellement?
Alors, j'entends ici ou là qu'il aurait fait une promesse précise sur la dose de proportionnelle.
Oui, que vous avez-il dit exactement et qu'avez-vous noué ou pas comme accord autour de cette question?
Ce n'est pas vrai. Nous avions un seul accord qui était que désormais il y aurait du pluralisme dans les institutions. Et ça va être le cas. Alors après, est-ce que le chiffre qui a été arrêté pour le gouvernement est un chiffre équitable, équilibré ? Je ne le crois pas, parce que 15%, ça fait 60 sièges sur 400, sur plus de 400. Et donc, comme les grosses écuries vont en prendre 35 ou 40, sur, il restera 20 sièges à se partager entre les minoritaires, entre guillemets, c'est dérisoire, ça n'a pas de sens. Et donc, je pense que le débat doit faire progresser ce chiffre vers le haut.
Mais surtout, ne vous a pas trahi ?
Non, pas du tout, parce que jamais il n'y a eu un engagement chiffré. En revanche, j'entendais François Hollande hier soir dire qu'il était contre la proportionnelle. Il suffit de reprendre sa fameuse litanie « Moi, président ». Pour entendre qu'il était dit explicitement « Moi, président, j'introduirai la proportionnelle ». Ça, c'était une trahison. Et donc, de ce point de vue-là, je l'oublie. Mais surtout, ce que je n'apprécie pas dans le texte présenté, et qui est le contraire de la promesse qui avait été faite, c'est que le cumul des mandats dans le temps, au bout de 3 mandats, vous changez, parce que quand vous faites, si vous n'avez pas fait en 18 ans comme maire ce que vous aviez à faire, il est peu probable que vous le ferez après. On a besoin de jouvence. Eh bien, cette promesse-là, elle est complètement piétinée. Elle est, c'est burlesque même, puisque on vous dit, mesdames et messieurs, on va le faire, mais ça s'appliquera entre 2032 et 2037. Et franchement, il y a de quoi éclater de rire pour écarter ce genre de manipulation.
On va se quitter sur cet éclat de rire. Merci beaucoup, François Bayrou.
Peut-être un mot sur Notre-Dame-des-Landes quand même.
Si vous le voulez, mais s'il vous plaît.
En une phrase, bref, il ne peut pas y avoir en France de zones de non-droit et de zones dans lesquelles, lorsqu'il y a une intervention des forces de l'ordre conformément à la loi, il faille avoir des guerres de tranchées et des explosions multiples pour faire respecter la loi. Il n'est pas possible que nous acceptions cela. Je dis l'opinion publique française, les démocrates français, les républicains français ne peuvent pas accepter cela. Il ne peut pas y avoir de zone de non-droit en banlieue, il ne peut pas y avoir de zone de non-droit dans les ZAD.
Ce qui est vrai en banlieue est vrai aussi pour les ZAD. Merci d'être venu nous voir ce matin sur RTL. François Bayrou, bonne journée à vous.
Merci à vous.